Radio FIPA.
Alors, le FIPA a commencé hier soir. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Non seulement hier soir, ça on en reparlera un peu demain, hier soir c'était la cérémonie d'ouverture avec un programme qui s'appelle FODA, un programme israélien si je ne me trompe pas. Il y aura une séquence, on refait le programme parce que les avis ont été un peu différents, un peu très partagés sur ce programme, certains qui sont enthousiastes, d'autres qui ont un regard plus mitigé. Et puis il y avait aussi hier, tout au long de la journée, un peu en avant-première, en apéritif, plusieurs programme pour le prix du public. Et dans ces différents programmes pour le prix du public, il y a un programme qui a retenu toute notre attention et vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'appelle, en version originale, Bacha Aideak, si je ne me trompe pas sur la prononciation, ça s'appelle Les Herches Sauvages. C'est un programme documentaire qui a lieu au Pays Basque, sur lequel deux de nos chroniqueuses vont intervenir, vont nous présenter, avec, on l'espère, les auteurs de ce programme. Mais je vais peut-être laisser la parole tout de suite à Pauline pour faire l'introduction un peu et nous présenter ce programme. Voilà, les deux auteurs arrivent et s'installent. On va pouvoir en discuter et présenter tout le programme. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Alice et Pauline qui vont présenter le programme et présenter les deux invités que je laisse s'installer. Pauline,
merci.
À vous la parole.
Merci bien, Julien.
D'accord.
Oui, film dont nous allons parler avec Alice se nomme Les Herches Sauvages. Il a été fait par Oriane et Elsa Oliar-Ginès. C'est un film qui parle des chants basques et notamment essayer d'instrumentaliser ou en tout cas d'accompagner des chants basques sans les dénaturer, ce qui semblait être un pari difficile que les auteurs du film ont essayé de relever. C'est un film que nous avons pu voir hier matin en amont du FIPA, tout le BTS audiovisuel. Ça nous a donné un avant-goût de tous les films en compétition pour le prix du public.
C'est ça, Pauline. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Oyan et Elsa, qui sont frères et sœurs et qui sont donc à l'origine de ce projet. Donc on avait des questions à vous poser avec Pauline. Hier, vous avez évoqué un petit peu, à la fin du film, la genèse du projet. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'était est-ce que vous avez écrit complètement, en fait, le documentaire, enfin le film, en fait, plutôt avant de le réaliser pleinement, ou est-ce que vous êtes aussi laissé porter dans la réalisation avec les chants basques?
Oui, non, moi, on écrit des choses en amont, beaucoup, mais c'est jamais... En fait, on écrit quelque chose qui ne ressemblera jamais au film. Ce qui est arrivé là, et c'est ce qui était déjà arrivé là pour mon premier film... j'écris le film vraiment au montage. C'est vraiment au moment du montage que je raconte. Et donc après, le film s'écrit quand même tout au long du tournage, puisque en fait c'est quand même un film qui suit un processus créatif. Donc la narration, elle est quand même guidée par le processus créatif. Mais après, vraiment l'écriture. Du film, elle est clairement au moment du montage.
D'accord. On voit qu'au montage, ça a été crédité avec Charlotte Tourès, donc, qui a aidé. En quoi est-ce que c'était important de monter ce film pas seul, mais avec quelqu'un? Ça apportait un regard extérieur ou quelque chose comme ça?
Oui, tout à fait. Après, Charlotte Tourès, c'est une monteuse avec laquelle j'avais déjà travaillé. Avec laquelle j'avais déjà travaillé pour mon premier film et avec qui j'avais beaucoup aimé travailler. Et en fait, quand on fait des films très personnels, en fait liés en tout cas à quelque chose qui est très personnel, je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui est complètement extérieur. Par exemple, Charlotte, elle ne parle pas basque, elle ne connaît pas vraiment le Pays basque. Et je pense que ça, c'est très important pour raconter, quoi, pour être vraiment dans une narration qui dépasse le réel et pour construire un film. Elle aussi, c'est une monteuse chevronnée, c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de travailler. Et je pense que ça, notamment quand on est un jeune réalisateur, parce que c'est très important de s'entourer aussi de quelqu'un qui a de l'expérience.
D'accord. Bah, c'est vrai que, enfin, personnellement, j'ai trouvé très, très poétique en fait la manière dont le champ et la montagne se font écho. Même la déformation, on pourrait dire, des corps sur le dernier morceau, celui qui joue, je ne sais plus, de la flûtine basque, c'est ça ?
Tchulula.
Tchulula, merci. Oui, enfin, je trouvais que la musique en fait incarnait les corps et les lieux en fait du Pays Basque.
C'est ça, simplement. C'est ce que j'ai voulu faire. Donc c'est super.
C'est super. Et donc par rapport à ces lieux, on remarque aussi, donc je pense que c'est plutôt vers Oyane que je me tourne pour cette question, que tous les chants sont enregistrés dans des lieux assez particuliers, la montagne, l'église, enfin des églises basques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les choix de ces lieux ?
Eh ben, à l'origine du projet, donc on a commencé par choisir quelques chanteurs avec qui on aimerait travailler. Et la première fois qu'on les a contactés, on leur a demandé qu'ils choisissent un morceau, une chanson qu'ils avaient envie d'enregistrer et qu'ils choisissent un lieu dans lequel ils aimeraient l'enregistrer. Donc en fait, je n'ai pas vraiment influé dans le choix de ces lieux. Mais en tout cas, c'est des lieux qui leur ont été chers, que ce soit dans leur approche du chant ou juste dans leur vie, tout simplement, dans leur enfance. Mais c'est clair que ce soit cinématographiquement comme moi dans mon appréhension de ces artistes, de ces chanteurs, et dans leur appréhension de cette culture. Ça a été ce choix, il est assez déterminant. Il joue un grand rôle dans le reste du travail. Oui. Sur quelle chanson on va travailler, pourquoi ils ont choisi cette chanson et pourquoi ce lieu. Et par rapport au lieu, au début, à l'origine, il y avait une envie aussi d'enregistrer. Donc, il y a la première partie où on enregistre a cappella. Et ensuite, je travaillais sur un arrangement musical. Et l'idée, à l'origine, c'était d'enregistrer une fois fait cet accompagnement avec tous les musiciens dans ces mêmes lieux.
D'accord.
Donc, il y a 8 chansons. Il y en avait 2-3 à la montagne, une dans une église, une dans une rivière, les pieds dans l'eau, dans une forêt, une dans une maison, une machin. Et le fait est que c'était absolument impossible et qu'à la fin, j'ai dû abandonner... J'ai dû abandonner cette idée. C'était suicidaire.
D'ailleurs, en parlant de la musique, on remarque que la présence de la musique est très importante, évidemment. Et justement, je trouve qu'elle contraste un peu avec ta présence à toi, Oyane, qui parfois est assez discrète. On te voit pas mal de profils ou de dos. Est-ce que c'était une volonté de contraster ?
Parce que je me suis caché de la caméra.
Oui, mais je voulais savoir si c'était, si c'était voulu ou si c'était plutôt...
Spontané.
Ou si c'était plutôt laisser la place à la musique et t'effacer, en fait, pour plutôt laisser le son porter le message, en fait.
Mais c'est... En fait, j'aimais bien... Par exemple, dans la première, dans la scène où le chanteur est de dos, face aux montagnes, avec donc Oyane qui est accroupi en train d'enregistrer... Mmh. J'aimais beaucoup cette image, en fait, parce qu'on se demande vraiment ce qu'il fait. C'est assez rare de voir un technicien du son dans l'image. Donc, je me suis dit, cette présence de la technique qui est censée se cacher, elle raconte quelque chose. Et en même temps, de ne pas tout de suite comprendre que c'est le personnage principal, qu'on va le suivre et que, en fait... En fait, cette personne-là, elle n'est pas juste en train d'enregistrer, elle est carrément en train de créer un projet musical. Mmh. Mais j'aimais bien commencer en le voyant petit, au loin.
D'accord.
Et après, dans le studio, en fait, là, pour le coup, on est très proche et dans l'image, les plans se rapprochent aussi. Donc, il y a cette dimension d'aller vers l'intime aussi qui... Et en effet, de confronter l'intime du studio avec des moments plus lointains. J'aimais bien ce rapport-là aussi.
Très bien. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être passer sur les aspects un peu plus techniques.
Tout à fait. C'est des questions que pourraient se poser en fait, les élèves comme nous du BTS audiovisuel qui ne connaissent pas très bien le milieu, etc. Par exemple, on se demandait quelle est la proportion du film, ou en tout cas des personnes qui ont aidé au film, ont été contactés grâce à des démarchages et des qualifications que vous avez? Quelle partie faisait partie de votre réseau préexistant? Parce que, par exemple, on a vu que vous connaissiez la plupart des chanteurs. Et du coup, est-ce que vous avez fait beaucoup de démarchages ou de choses comme ça?
Tu veux dire pour les personnages du film ou l'équipe technique?
Bah, tout, oui, les, ouais, les deux.
Bah, les chanteurs.
Tu oui, les chanteurs, c'est des... De toute façon, c'est que des chanteurs de la région.
Petite région, on connaît tout le monde.
Petite
donc.
Région, tout le monde connaît tout le monde. Donc, on va dire que c'était... Ouais.
Et pour, pour l'équipe technique, bah, Oyan, du coup, je le connais bien. Je ne sais pas si vous reconnaissez la petite air de famille. Et donc, il avait déjà fait le son pour le premier film. Donc, bah, voilà. Ma monteuse, c'est quelqu'un avec qui était intervenu dans mon master pro. Et que j'avais donc contacté à l'occasion de mon premier film. Donc, j'avais déjà travaillé avec elle. Par contre, pour ce film, j'ai un peu appris à
avoir, pas filmer.
Voilà, à avoir des chefs-op. Donc ça, c'est nouveau pour moi. Et là, pour le coup, les deux chefs-op, c'est ma monteuse qui les connaissait, qui m'a conseillé de les contacter. Voilà. Et après, pour le reste, le producteur, en fait, c'est un peu à la fois... C'est pas vraiment un hasard, mais il se trouve qu'il vient du même village que nous. Et qu'il avait aimé le premier film et qu'il voulait produire un film en soul. Donc, il m'a parlé de l'idée de faire un film en soul avant que mon frère me propose de faire ce projet. Donc, en fait, l'un dans l'autre, je me suis dit, tiens, en fait, tout le monde va y trouver son compte. Et ça s'est fait comme ça, en fait.
Ok.
Mais voilà, je crois que finalement, dans l'équipe technique, il n'y a personne qui a été démarché réellement. C'est du 100% réseau.
Par contre,
réseau proche, lointain.
Réseau. Faites des stages, en fait. Parce que ce producteur, en fait, c'était un stage. J'avais fait un stage dans cette boîte. Et le stage s'était très bien passé, même si c'était très longtemps avant. Je pense qu'il n'y a vraiment que en faisant des stages qu'on rencontre des gens.
Et la monteuse, tu l'as rencontrée à l'école.
Ouais.
Donc
oui, c'est du réseau. Voilà.
Nos profs peuvent devenir nos collègues aussi. Enfin, oui, les gens qui interviennent.
Les intervenants, en fait, qui...
Une fois qu'on passe nos diplômes, bah, ça devient nos collègues, nos confrères, consoeurs. Okay.
Mais multiplier les expériences professionnelles, en fait, même sur des projets qui peuvent, au premier abord, sembler pas forcément un truc qu'on aurait choisi ou pas forcément une boîte qu'on aurait contactée ou un moment, un été où on n'a rien à faire, aller se pointer sur un tournage. Enfin, je pense qu'il n'y a jamais aucune expérience qui ne sert à rien, en fait. Et même s'ennuyer sur une expérience professionnelle, ça permet aussi de mieux définir, en fait, ce qu'on veut faire.
Ok, merci bien. Ah oui, aussi, c'était un sujet qui vous tenait à cœur, puisque vous êtes dans le coin, et que même ton premier film qui s'appelait « Dans leur jeunesse, il y a du passé », on le dit pour nos gentils auditeurs, parlait aussi du Pays Basque, en l'occurrence des gens avec lesquels tu as grandi, mais qui sont restés dans le Pays Basque et vers lesquels tu es revenu pour voir leur situation. Donc, c'est encore un sujet qui vous tient à cœur. Et dans quelle mesure est-ce que ce sujet a été encadré? C'est-à-dire, est-ce qu'il répondait à une demande ou est-ce que c'est vous qui avez porté le projet depuis le début et jusqu'au bout?
Ben, c'est entre les deux, en fait. Hein, parce que, à la base, le projet musical d'Oyan, c'était tout simplement pour passer son diplôme de conservatoire de musique actuelle. Donc, il y avait quand même un côté diplôme. Et puis, moi, il y avait un autre truc, c'est donc ce que je vous disais, le producteur m'avait dit que ça l'intéresserait de produire un film sur le champ. Mm-hmm. Et moi, quand il me l'avait dit, je m'étais dit, bah non, ça va, je viens de passer 3 ans à faire un film en soul, je vais pas m'y remettre. Et en fait, quand Oyan m'a proposé de participer à son projet, donc pour son diplôme, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui voudrait participer. Donc, je lui en ai parlé. Et voilà, et après, toute la difficulté, entre guillemets, en tout cas pour moi, c'était d'en faire un projet personnel, c'est-à-dire trouver ma place en tant que réalisatrice et pas juste faire un making-of de son album.
Ou répondre à la commande d'un producteur.
Voilà. Donc,
réussir à faire en sorte que ce soit à la fois le film pour lequel je l'avais demandé de venir, à la fois répondre aux envies, aux exigences entre guillemets du producteur et à la fois s'approprier le film pour
en
mettre
faire un
son
vrai
nom
film,
en bas de l'affiche avec en y croyant.
Ok. Et autant on connaît un peu ton parcours, Elsa, autant Oyane, on ne connaît pas très bien ce que tu as fait après le BTS. Et nous, en tant que futurs anciens du BTS, c'est un petit peu vertigineux pour nous. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu as fait après le BTS ?
Dans l'année qui a suivi le BTS, je suis parti voyager pendant un an. Et c'est quelque chose que je conseille. Enfin, à l'époque, je me souviens, en rentrant, je le conseillais à tout le monde. Bon, maintenant, c'est un peu loin, donc... Je me souviens plus trop de ce sentiment, mais en tout cas, je me souviens que ça a répondu à des questions, ça m'a posé de nouvelles questions. Enfin, en tout cas, quand j'ai quitté le BTS, je pensais avoir fini mes études, et quand je suis revenu de voyage, j'ai repris mes études. Je sais qu'il y a pas mal de pays où, juste après le bac, on nous incite à partir voyager ou faire un projet social ou un truc comme ça. Mm-hmm. Là, je l'ai fait 2 ans après le bac, enfin 3 ans, une fois le BTS en poche, mais quoi qu'il arrive, c'est un âge où je pense que c'est pas mal de se barrer un peu pendant un an, faire autre chose que des études, couper un petit peu. Non, c'est un peu avant après l'école, avant les études. Je trouve bien, ça nous recentre un peu sur nous, sur des choses aussi simples que qu'est-ce que je vais faire de mes journées, où est-ce que j'ai envie d'aller, qui j'ai envie de rencontrer, ouais, etc. Et en rentrant du coup de voyage, j'ai commencé des études de musique au conservatoire. J'avais toujours fait de la musique, même quand j'étais au BTS. Mais j'avais jamais vraiment envisagé d'en faire mon métier, et j'avais surtout jamais eu envie de faire des études. J'étais un peu contre le solfège, la théorie musicale, et puis en fait tout d'un coup ça m'a intéressé, et donc je l'ai fait pendant 4 ans. J'ai fait des études de musique, et en parallèle commencé à avoir des groupes de musique, et en parallèle travailler à France Bleu Pays Basque, dans lequel j'avais fait mon premier stage de radio et qui m'a permis de payer mon loyer pendant mes études. Donc les stages, on ne sait jamais. C'est marrant parce que ce stage, je n'avais pas du tout prévu de le faire à France Bleu. J'étais censé faire un stage dans un studio de musique qui m'a planté 2 semaines avant, et France Bleu a eu la gentillesse de m'accueillir pour ce stage que j'ai trouvé super intéressant. Et derrière, j'ai pu bosser pendant 4 ou 5 ans. Je faisais des petits CDD, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin, parce que je n'avais pas le temps avec mes études de travailler toute la semaine. Donc c'était parfait. Donc voilà, j'ai fait un peu de technique à France Bleu, j'ai fait un peu de technique avec Elsa sur le premier film, d'autres projets audiovisuels. Maintenant, je fais surtout de la musique, mais même en faisant de la musique, je produis des albums. Donc voilà, j'ai des micros, j'ai des Pro Tools, tout ce que j'ai appris au BTS, je m'en sers tous les jours.
Ok, très bien. Très bien. Et maintenant, juste avant, j'ai une question qui vient de Élie Martinez. C'est où est-ce qu'on pourra retrouver le documentaire par la suite ? Est-ce que c'est déterminé ou pas encore ?
Il y a déjà une projection demain.
Oui.
Et ce serait cool qu'il y ait autant de monde qu'à la première projection, parce que c'était quand même énorme. Il y a la Talente qui nous a proposé de venir lors des rencontres sur les docks qui ont lieu le 8 mars. Et également le musée basque de Bayonne qui organise aussi une projection. Ensuite, il sera diffusé le 26 février sur France 3, Aquitaine, après Soir 3. Mm-hmm. Comme vous êtes tous des grands des téléspectateurs, et notamment de France 3 le lundi soir, ça sera vous,
bien sûr,
vous parler. Voilà, et puis sinon, non, pour l'instant, on n'a pas encore de vue à long terme, mais c'est la première fois là pendant le FIPA que le film est projeté, parce que la première projection était à Mauléon avec tous les gens de chez nous, donc c'était différent, donc c'est vraiment la première projection.
Ok, très bien, merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On va passer à un extrait chanté de votre issu de votre film tout de suite. Merci beaucoup.
Merci.
Cheikin un du sud, es pujanin sangoisian. Bai eta ere setas vestitu, e ki agel ki senian. E che candere sabal nun du sud, Egu erdi erdian, bai eta ere alargun txagazte, Ekia sartu zenian.
Radio FIPA.
Voilà, c'était sur cet extrait de Bacha Aïdéac et de ses chants basques qu'on termine notre première édition du plateau radio qui vous est proposé, comme chaque année, par les étudiants du BTS audiovisuel de Bayonne-Biarritz. On vous donne rendez-vous demain, 18h, même lieu, le grand couloir du Bellevue. Et d'ici là, très bonne projection dans les salles du FIPA à Biarritz. À demain.
Le FIPA se met sur son 31. Radio FIPA.